La philosophie réaliste, Claire Bressolette.
L'expérience poétique. Idée créatrice, intuition créatrice, expérience poétique. Qu'entendre par expérience poétique ? Je voudrais, avant de commencer, revenir sur la fin de l'émission précédente. J'ai proposé un vis-à-vis entre chose et être. Chose est un mot vide, mais c'était le meilleur que Maritain a pu trouver pour décrire cet emmêlement du monde et du soi, de la nature et du jeu du poète. Eh bien, regardons ce qu'il dit de l'être et comment il peut comparer l'être à la lettre volée dans la nouvelle d'Edgar Poe qui porte ce nom. Je vais, pour faire rapidement, faire bref, utiliser le commentaire du père Charles Blanchet à la fin de Maritain en toute liberté. Maritain aimait citer la nouvelle de la lettre volée racontée par Edgar Poe. Une lettre précieuse, dérobée par un ministre, est recherchée dans un appartement par les plus fins limiers de la police. Les gaillards ne la trouvent pas, parce qu'elle est simplement accrochée au mur, comme la chose la plus banale du monde, dans un vulgaire porte-carte. Ils visitent les coins et recoins, mais oublient de regarder ce qui est à la portée de leurs yeux. N'est-ce pas l'image de la condition humaine, demande Maritain ? Et souvent la démarche du penseur ? L'esprit humain s'enfonce dans la spéculation la plus difficile, en oubliant ce qui est le plus proche de lui, ce qui fait l'étoffe même de son être, son appartenance à la chair même du monde. Nous ne voyons plus ce dont nous vivons, l'être commun, le lien nuptial avec la vie, la muette complicité de notre existence avec la nature. Les anciens parlaient de cette piété naturelle qui nous relie à l'univers, et Naber évoquait cette affirmation originaire qui est comme notre premier élan vers l'existence. Malgré nos différences philosophiques et religieuses, n'y a-t-il pas là un fond commun, une expérience première, native, une source pré-réflexive que nous partageons tous ? L'intuition de l'être, ce qu'il y a de plus banal. La chose, ce qu'il y a de plus banal. Et donc, la poésie est quelque chose de très banal. C'est non seulement une nourriture pour nous, un besoin, pourrait-on dire, pour que l'homme soit vraiment homme et pas une abeille ou une fourmi améliorée à faire ce qu'elle a à faire, porter des charges lourdes et travailler toute la journée. Mais tout le monde est poète un jour ou l'autre, surtout à l'adolescence, ou au moins au moment de la fête des mères, quand on est enfant, on fait un petit poème stimulé par l'institutrice ou l'instituteur. La poésie est donc notre biotope. Et Maritain va parler de l'expérience poétique, toujours dans cette perspective qui est grande chez Maritain, cette ouverture au monde dans lequel il vit. Il est vraiment un philosophe dans la cité. Et les problématiques de la philosophie existentielle, eh bien, il les entend en y répondant à partir de saint Thomas. Voyons ce qu'il dit de l'expérience poétique, puisque Kierkegaard, qu'on peut considérer comme le père de l'existentialisme, est de manière éminente, hein, si on a un peu le temps, je vous donnerai des extraits, le philosophe de la singularité et de l'expérience par l'expérience de l'angoisse. L'angoisse kierkegaardienne, mais Maritain a eu aussi cette expérience de l'angoisse en se roulant sur son tapis dans ses 17 ans, en disant « si je ne trouve pas le sens de la vie ». Mais comme il dit, on ne fait pas de la philosophie avec l'angoisse. L'angoisse est une expérience qui peut servir de réflexion, mais c'est avec du concept qu'on philosophe. Donc, comment parler d'expérience poétique ? J'ai parlé de la connaissance poétique et de l'intuition poétique. L'expression d'expérience poétique a, me semble-t-il, une signification quelque peu différente, plus complexe et plus largement psychologique. Elle désigne un certain état de l'âme où la communion avec soi fait s'arrêter pour un temps le trafic ordinaire de notre pensée, état qui est lié à une intuition poétique particulièrement intense. l'expérience poétique ramène le poète au lieu caché, à la racine unique des puissances de l'âme, où la subjectivité entière est, pour ainsi dire, rassemblée dans un état d'attente et de créativité virtuelle. Dans ce lieu, il entre, non par aucun effort de concentration volontaire, mais par un recueillement, si fugitif soit-il, de tous les sens, et une sorte de repos unifiant, pareil à une grâce naturelle. Il entre un don premier, mais il faut qu'il y consente, et il peut le cultiver, surtout en écartant les obstacles et en faisant taire les concepts. L'expérience poétique est ainsi quand elle émerge sur le rebord du préconscient spirituel, un état de connaissance obscure, inexprimée et savoureuse, dont l'expression, quand elle se produira plus tard dans une œuvre, sera également savoureuse. Le terme de savoureux, savoureuse, est très important parce qu'il fait écho à Thomas. Saint Thomas d'Aquin dit bien qu'il y a une saveur dans le beau. On goûte, il y a un goût. Le beau est fait pour être goûté, savouré. Et c'est ici, dans cet oxymore, ce paradoxe d'une connaissance obscure qui est forcément une sorte d'analogué avec l'expérience mystique où le don suppose cette passivité de la personne priante et qui va être unie de manière mystique à la personne du Christ. C'est un analogué qui n'est pas du tout une identité, hein, c'est deux plans différents, mais qui nous permettent de le comprendre si vous relisez surtout les dernières pages de Distinguer pour unir, où Maritain commente Saint Jean de la Croix à partir du nada, donc du rien, qui est la condition de finalement cette expropriation du soi pour pouvoir permettre l'union christique, et il termine dans le dernier chapitre par la croix. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension crucifiante dans toute réelle et vraie expérience humaine. Et on va la retrouver ici, dans cette obscure connaissance, se délester de son soi, qui est la condition sine qua non de la création poétique. Maritain élargit le propos thomiste. Ne lisons-nous pas dans un vieux texte sanscrit que la poésie est une parole dont l'essence est la saveur. C'est toujours sa recherche des vérités cachées en toute philosophie, en toute culture. Il va puiser et chercher des vérités cachées. Dans un tel contact spirituel de l'âme avec elle-même, toutes les sources sont touchées à la fois et la première obligation du poète est de respecter l'intégrité de cette expérience originelle. Tout rebut systématique de quelqu'une des facultés en jeu serait une sorte de mutilation de soi-même. On ne peut réduire la poésie à un pur jaillissement d'images séparées de l'intelligence, pas plus qu'à un discursus de la raison logique. Donc, vous voyez ici dos à dos, un simple jaillissement d'images séparées de l'intelligence, ce serait un peu le surréalisme, les écritures automatiques, et puis le discursus de la raison logique, ce serait l'application des règles. Je vais faire un bon alexandrin avec de bonnes rimes riches, ma coupe à la césure, et ça fera une bonne poésie. Non, pas du tout. Il n'y aura aucune inspiration dans cette façon de faire. Il n'y a pas d'expérience poétique sans un germe secret de poème, si infime soit-il. Mais il n'y a pas de vrai poème qui ne soit un fruit provenant par nécessité intérieure de l'expérience poétique. L'expérience poétique, bien que le mouvement qu'elle enveloppe aboutisse à un arrangement de mots sur le papier, ou de notes sur la partition, ou de couleurs sur la toile, est en elle-même une sorte de contemplation naturelle, obscure et affective, et suppose un moment de silence et de réceptivité vigilante. Sans ce moment de contemplation, il n'y a pas d'activité poétique. Vous voyez qu'il y a le même geste dans chacune des activités humaines. Le parallèle avec la mystique, qui est l'aboutissement de la vie contemplative, est ici énoncé par Maritain lui-même. Et si on doit résumer la pensée de Maritain à deux phrases, ce serait la descente du spirituel dans le temporel, ça c'est pour le geste christique, de quitter le sein du Père pour s'incarner. Et la deuxième phrase, ce serait l'action naît d'une surabondance de contemplation. Donc, nous sommes ici dans l'agir, dans le plan pratique, qui se divise en deux, hein, je rappelle, le faire et l'agir. Eh bien, le faire, lui aussi, ne peut avoir lieu que par une surabondance de contemplation. Et c'est ça, la trouvaille de Maritain. C'est que cette intuition créatrice, qui va être une expérience poétique, est une expérience de silence et de contemplation. Un peu d'humour. D'où vient à Maritain cette intelligence de l'art? Allez, Vladimir Gicka nous rapporte une rencontre avec Francis James. La scène se passe dans le midi, une promenade publique, un enfant blond et pâle peint à l'aquarelle le paysage. La mère attentive est à côté de lui. Un ami commun lui présente James. Propos aimable du promeneur Francis. Question. La dame explique que le passe-temps est surtout imaginé pour faire prendre l'air à un enfant trop enfoui dans ses livres et trop délicat de santé. Alors, solennel, doctoral, du haut de sa barbe de prophète, la peinture à l'eau, en plein air, oui, ce n'est pas mal. Mais l'eau, cela a ses inconvénients. Mettez-le à la peinture à l'huile, c'est plus sage. Et beaucoup plus fortifiant, surtout à l'huile de foie de morue. On devait se retrouver quelques 20 ans après avec d'autres pensées, commente Vladimir Gicka. Les artistes sont aussi des gens facétieux. Merveille. Maritain continue sur l'expérience poétique pour introduire la notion finalement d'existence. Très important de ne jamais séparer une métaphysique de l'essence, de l'être, de l'acte d'exister. C'est souvent un reproche qu'on a fait à Maritain de dire, bon, il est influencé par les commentateurs de saint Thomas d'Aquin, Cajetan, on va le tirer du côté de l'essentialité. C'est un tort. Actuellement, on a une mise à l'écart de Maritain, justement, ses écrits sur l'art, Umberto Eco dit que Maritain ne prend pas saint Thomas à la lettre, parce que la splendeur, le rayonnement de la splendeur n'est pas littéraire, mais je crois que c'est une fausse manière de voir les choses. La lettre est une chose, l'esprit une autre, et la manière médiévale n'est pas du tout non rigoureuse, parce qu'elle n'est pas la nôtre. On est tellement influencé par une univocité mathématique pour dire le vrai, qu'on voudrait prendre un texte de la manière la plus univoque possible, en voyant ses sources, ce qu'il est vraiment. Je ne suis pas sûre que cette mise à l'écart de Maritain pour ces motifs-là soit la bonne. Quoi qu'il en soit, Maritain poursuit autour de cette expérience poétique pour introduire la notion d'existence. Après le silencieux recueillement, un souffle s'élève, venant non pas du dehors, mais du centre de l'âme. Quelquefois un souffle presque imperceptible, mais fort et contraignant, par lequel tout est donné dans l'aisance et l'heureuse expansion. Quelquefois un vent de tempête, faisant irruption soudain, et par lequel tout est donné dans la violence et l'ivresse. Quelquefois le don du commencement d'un chant. Quelquefois une explosion de paroles que rien ne peut arrêter. En un sens, pour ce qui est de la signification de l'œuvre et du degré où elle existe, l'inspiration donne tout, et elle est même trop riche. En un autre sens, pour ce qui est des moyens d'exécution, elle est désarmée et en quête d'outils. Précisément parce qu'elle est transcendante par nature et tout à fait intangible, montant de la nuit spirituelle de la subjectivité, et parce qu'elle n'est qu'un souffle, l'inspiration ne peut donner forme sans cette raison opérative qu'elle transcende et emploie comme un instrument. Vous avez remarqué, l'existence est attribuée à l'œuvre qui n'existe pas encore, c'est-à-dire qui n'est pas encore opérée, qui n'est pas encore exprimée, mais elle existe pleinement parce qu'elle existe dans l'intérieur du sujet. Et pour arriver à cette forme opérative, il faut la raison opérative, c'est-à-dire ce passage par la maîtrise des règles de l'art. Mais c'est à partir de cette lutte entre l'inspiration, l'intuition et les règles de l'art que l'œuvre véritablement nouvelle, singulière, dans sa singularité unique, peut advenir. Pour terminer notre cycle de conférences sur l'art, j'aimerais prendre un texte qui appartient à Situation de la poésie, donc écrit en 1938, parce que c'est un texte qui appartient à la période française des maritains. Ils vont prendre le bateau en janvier 40 pour partir aux États-Unis, et puis ils vont y rester pendant la guerre. Ensuite, il y aura l'ambassade à Rome de 45 à 48, et puis à nouveau le retour à Princeton. Alors qu'on aurait pu attendre un retour en France, mais ce n'était pas possible. Les choses avaient tourné, c'était d'autres philosophies. Et quand Maritain revient en France, même s'il revient un court temps avec Raissa en 1960, c'est pour accompagner Raissa dans ses dernières semaines. Donc quand il revient finalement seul, avec une autre vie qui sera à Toulouse, hein, celle de l'enfouissement dans les petits frères de Jésus, près du couvent des Dominicains. Et donc ce texte qui vient terminer, clore la période de Meudon, me semble important pour clore un peu notre mois sur l'art, notre 4 semaines, parce qu'on culmine dans la fréquentation des artistes à Meudon, qui est une période heureuse. Cette fréquentation donc de l'intelligentsia et de l'avant-garde parisienne et même mondiale, puisque beaucoup de Russes viennent, se croisent avec les retraites thomistes organisées par les maritains, le père Garrigou Lagrange. Elles alternent aussi avec une mise en œuvre de l'apostolat de l'intelligence, qui est la grande œuvre de Maritain dans ces années interbelliques. Il veut finalement proposer un christianisme humaniste, mais théocentré, alors que l'humanisme de la Renaissance est anthropocentré. Et donc, 14-18, cette guerre qui met la fin aux empires, la fin au 19e siècle, il y a une autre manière de vivre, pour lui, met la fin aussi à l'humanisme anthropocentré. Et donc, la grande espérance de Maritain, c'est de proposer un nouveau christianisme, une nouvelle forme, hein, un nouvel état. Vous savez la différence entre état et nature chez Maritain. Et une nouvelle, on va dire, mise en œuvre du christianisme qui soit un humanisme avec tout ce que cela apporte, théocentré. Maritain a toujours utilisé l'apport de l'histoire. Et ce qu'apporte l'humanisme en art, c'est la réflexivité. C'est dans l'art moderne, le fait de cette prise de conscience de l'artiste qui opère finalement un retour sur soi et un retour sur l'acte créateur. Donc ce texte, extrait de Situation de la poésie, me semble être un bon point d'orgue en attendant le prochain mois. Un acte de pensée qui, de par son essence, est créateur, qui forme quelque chose dans l'être, au lieu d'être formé par les choses. Qu'est-ce qu'il exprime et manifeste en produisant l'œuvre, sinon l'être même et la substance de celui qui crée? C'est très fort. C'est très fort parce qu'il y a quelque chose de l'unicité de la personne qui va passer dans la création. mais la substance de l'homme lui est obscure à lui-même. C'est en recevant et en souffrant les choses, c'est en s'éveillant au monde qu'elle s'éveille à elle-même. Le poète ne peut exprimer sa propre substance dans une œuvre qu'à condition que les choses résonnent en lui et qu'en lui, d'un même éveil, elle et lui sortent ensemble du sommeil. Tout ce qu'il discerne et devine dans les choses, c'est ainsi comme inséparable de lui et de son émotion, et à vrai dire comme lui-même, qui le discerne et le devine, et pour saisir obscurément son être à lui, d'une connaissance qui n'aboutira qu'en étant créatrice. Donc vous voyez ici qu'il y a bien une connaissance, mais qui n'a rien à voir avec une connaissance conceptuelle. Donc retenons bien, la différence des domaines, le domaine spéculatif et le domaine pratique, se fait par la finalité. La finalité du domaine spéculatif, c'est une connaissance de l'être, par concept. La finalité du plan pratique, c'est faire, l'agir ou le faire. Mais ça n'exclut pas une dimension cognitive. Et ça, c'est très important, parce que ça permet une organicité des deux plans, un adjointement, si vous voulez, une sorte de chiasme. On a aussi une dimension créatrice en spéculation, et on a aussi une dimension cognitive dans la création. C'est très important parce que cette connaissance ne peut se faire que sous mode créatif. Voilà pourquoi il fait voir le Graal aux autres et ne le voit pas lui-même. Le Graal, c'est une allusion à Jean Cocteau et au Chevalier de la Table Ronde, bien sûr. Son intuition, l'intuition ou émotion créatrice, est une obscure saisie de moi et des choses ensemble dans une connaissance par union ou par connaturalité qui ne se forme et ne fructifie n'a son verbe que dans l'œuvre et que de toute sa pesanteur vitale va à faire et à produire. Voilà une connaissance bien différente de ce qu'on appelle couramment connaissance. Une connaissance qui n'est pas exprimable en idées et en jugement, mais qui est plutôt expérience que connaissance et expérience créatrice, car elle veut s'exprimer et elle n'est exprimable que dans une œuvre. Cette connaissance n'est pas préalable ni présupposée à l'activité créatrice, mais inviscérée dans celle-ci, consubstantielle au mouvement vers l'œuvre. Et c'est là proprement ce que j'appelle connaissance poétique, étant bien entendu que le mot connaissance est un terme analogique, qui désigne ici une connaissance par où l'esprit ne tend pas comme à son repos à être devenu les choses, mais à avoir produit une chose dans l'être. La connaissance poétique est ainsi la secrète vertu vitale de ce germe spirituel que les anciens appelaient l'idée de l'œuvre, l'idée ouvrière ou artisane. Elle a pris conscience d'elle-même en même temps que la poésie, ou plutôt cette plongée divinatoire est la poésie elle-même, elle est l'esprit qui dans le sensible et par le sensible, dans la passion et par la passion, dans l'épaisseur et par l'épaisseur, capte pour les jeter dans une matière les sens secrets des choses et du soi, le même sens étant tout à la fois le sens ainsi perçu dans l'être et le sens animateur de l'ouvrage fait, ou ce que j'appelais tout à l'heure la mélodie de toute œuvre d'art authentique, ce croisement des notions. Mélodie, sens, existence, vous montre l'importance de l'art pour Maritain.